Chapitre 17, la place Saint-Jean en grève, la tour du pilori. Il est 7 heures du matin. La foule attendait, bruyante, sur les places, dans les rues et sur les quais. À 10 heures du matin, un tombereau, le même dans lequel les deux amis, après leur duel, avaient été ramenés évanouis au Louvre, était parti de Vincennes, traversait lentement la rue Saint-Antoine, et sur son passage, les spectateurs si pressés qu'ils s'écrasaient les uns sur les autres semblaient des statues aux yeux fixes et à la bouche glacée. C'est qu'en effet, il y avait ce jour-là un spectacle déchirant, offert par la reine-mère à tout le peuple de Paris. Dans ce tombereau dont nous avons parlé et qui s'acheminait à travers les rues, couchaient sur quelques brins de paille deux jeunes gens, la tête nue et complètement vêtus de noir, s'appuyaient l'un contre l'autre. Coconas portait sur ses genoux la mole dont la tête dépassait les traverses du tombereau et dont les yeux vagues erraient çà et là. Et cependant la foule, pour plonger son regard avide jusqu'au fond de la voiture, se pressait, se levait, se haussait, montant sur les bornes, s'accrochant aux anfractuosités des murailles et paraissant satisfaite lorsqu'elle était parvenue à ne pas laisser vierge de son regard un seul point des deux corps qui sortaient de la souffrance pour aller à la destruction. Il avait été dit que la mole mourrait sans avoir avoué un seul des faits qui lui était imputé, tandis qu'au contraire, assurait-on, Coconas n'avait pu supporter la douleur et avait tout révélé. Aussi criait-on de tous côtés, « Eh, voyez, voyez le rouge, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a tout dit, c'est un lâche qui est cause de la mort de l'autre. Ah, l'autre, au contraire, c'est un brave, il n'a rien avoué. » Les deux jeunes gens entendaient bien, l'un les louanges, l'autre les injures qui accompagnaient leur marche funèbre. Et tandis que la mole serrait les mains de son ami, un sublime dédain éclatait sur la figure du piémontais qui, du haut du tombereau immonde, regardait la foule stupide comme il l'eût regardé d'un char triomphal. L'infortune avait fait son œuvre céleste et avait ennobli la figure de Coconas comme la mort allait diviniser son âme. « Serons-nous bientôt arrivés ?» demanda la mole. « Je n'en puis plus, mon ami, et je crois que je vais m'évanouir. »« Attends, attends, la mole, nous allons passer devant la rue Tixon, devant la rue Cloche-Percée. Regarde, regarde un peu. Oh, soulève-moi, soulève-moi, que je vois encore une fois cette bienheureuse maison. » Coconas étendit la main et toucha l'épaule du bourreau. Il était assis sur le devant du tombereau et conduisait le cheval. « Maître, lui dit-il, rends-nous ce service de t'arrêter un instant en face de la rue Tixon. » Caboche fit de la tête un mouvement d'adhésion et arrivé en face de la rue Tixon, il s'arrêta. La mole se souleva avec effort, aidée par Coconas, regarda, l'œil voilé par une larme, cette petite maison silencieuse, muette et close comme un tombeau. Un soupir gonfla sa poitrine et, à voix basse, « Adieu, murmura-t-il, adieu, la jeunesse, l'amour, la vie. » Et il laissa retomber sa tête sur sa poitrine. « Courage, dit Coconas, mais ne t'évanouis pas, mon ami, ces misérables qui nous regardent riraient de nous. » Caboche entendit ces derniers mots, et fouettant son cheval d'une main, il tendit de l'autre à Coconas, et sans que personne ne pût voir, une petite éponge imprégnée d'un révulsif si violent que la mole, après l'avoir respiré et s'en être frotté les tempes, s'en trouva rafraîchie et ranimée. « Ah !» dit la mole, « je renais !» Et il baisa le reliquaire suspendu à son cou par la chaîne d'or. « Ami, dit la mole, je voudrais bien mourir le premier. » Coconas toucha une seconde fois de sa main l'épaule du bourreau. « Qu'y a-t-il, mon gentilhomme ?» demanda celui-ci en se retournant. « Brave homme, dit Coconas, tu tiens à me faire plaisir, n'est-ce pas ? Tu me l'as dit, du moins. »« Oui, je vous le répète. Voilà mon ami qui a plus souffert que moi et qui, par conséquent, a moins de force. »« Eh bien ?»« Eh bien, il dit qu'il souffrirait trop de me voir mourir le premier. D'ailleurs, si je mourrais le premier, il n'aurait personne pour le porter sur l'échafaud. Hein, « c'est bien, » dit Caboche en essuyant une larme avec le dos de sa main. « Soyez tranquille, on fera ce que vous désirez. »« Et d'un seul coup, n'est-ce pas ?» dit à voix basse le piémontais. « D'un seul. »« Ah, c'est bien. Si vous avez à vous reprendre, reprenez-vous sur moi. » Le tombereau s'arrêta. On était arrivé. Coconas mit son chapeau sur sa tête. Une rumeur semblable à celle des flots de la mer bruit aux oreilles de la mole. Il voulut se lever, mais les forces lui manquèrent, et il fallut que Caboche et Coconas le soutinssent sous les bras. La place était pavée de têtes. Les marches de l'hôtel de ville semblaient un amphithéâtre peuplé de spectateurs. Chaque fenêtre donnait passage à des visages animés dont les regards semblaient flamboyer. Quand on vit le beau jeune homme qui ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes brisées faire un effort suprême pour aller de lui-même à l'échafaud, une clameur immense s'éleva comme un cri de désolation universelle. Les hommes rugissaient, les femmes poussaient des gémissements plaintifs. « Ah, c'est un des premiers raffinés de la cour, disaient les hommes, et ce n'était pas à Saint-Jean-de-Grève qu'il devait mourir, c'était au Pré-au-Clair. « Ah, qu'il est beau, qu'il est pâle, disaient les femmes, c'est celui qui n'a point parlé. « Ami, dit la mole, je ne puis me soutenir, porte-moi. « Attends, dit Coconas, il fit un signe au bourreau qui s'écarta, puis, se baissant, il prit la mole dans ses bras, comme il l'eût fait d'un enfant, et monta, sans chanceler, chargé de son fardeau, l'escalier de la plateforme où il déposa la mole au milieu des cris frénétiques et des applaudissements de la foule. Coconas leva son chapeau au-dessus de sa tête et salua. Puis il jeta son chapeau près de lui sur l'échafaud. « Regarde autour de nous, dit la mole. Ne les aperçois-tu pas quelque part ?» Coconas jeta lentement un regard circulaire tout autour de la place et, arrivé sur un point, il s'arrêta, étendant sans détourner les yeux sa main qui toucha l'épaule de son ami. « Regarde, dit-il, regarde la fenêtre de cette petite tourelle. » Et de son autre main, il montrait à la mole le petit monument qui existe encore aujourd'hui entre la rue de la Vannerie et la rue Mouton, un des débris des siècles passés. Deux femmes, vêtues de noir, se tenaient appuyées l'une à l'autre, non pas à la fenêtre, mais un peu en arrière. « Ah, fit la mole, je ne craignais qu'une chose, c'était de mourir sans la revoir. Je l'ai revue, je puis mourir. » Et les yeux avidement fixés sur la petite fenêtre, il posa le reliquaire à sa bouche et le couvrit de baisers. Coconas saluait les deux femmes avec toutes les grâces qu'il se fût données dans un salon. En réponse à ce signe, elles agitèrent leurs mouchoirs, tout trempés de larmes. Caboche, à son tour, toucha du doigt l'épaule de Coconas et lui fit des yeux un signe significatif. « Oui, oui, » dit le piémontais. Alors, se retournant vers la mole, « Embrasse-moi, lui dit-il, et meurs bien. Cela ne sera point difficile, ami, tu es si brave. »« Ah, dit la mole, il n'y a pas de mérite à moi de mourir bien, je souffre tant. » Le prêtre s'approcha et tendit un crucifix à la mole, qui lui montra en souriant le reliquaire qu'il tenait à sa poitrine. « N'importe, dit le prêtre, demandez toujours la force à celui qui a souffert ce que vous allez souffrir. » La mole baisa les pieds du Christ. « Recommandez-moi, dit-il, aux prières des dames de la Benoîte Sainte Vierge. »« Hâte-toi, hâte-toi, la mole, dit Coconas, tu me fais tant de mal que je sens que je faiblis. »« Je suis prêt, dit la mole. »« Pouvez-vous tenir votre tête bien droite, dit Caboche, apprêtant son épée derrière la mole agenouillée. »« Je l'espère, dit celui-ci. »« Alors, tout ira bien. »« Mais vous, dit la mole, vous n'oublierez pas ce que je vous ai demandé, ce reliquaire vous ouvrira les portes. Soyez tranquille, mais essayez un peu de tenir la tête droite. » La mole redressa le cou et, tournant les yeux vers la petite tourelle, « Adieu, Marguerite, dit-il, sois béat. » Il n'acheva pas. D'un revers de son glaive rapide et flamboyant comme un éclair, Caboche fit tomber d'un seul coup la tête qui alla rouler aux pieds de Coconas. Le corps s'étendit doucement comme s'il se couchait. Un cri immense retentit, formé de mille cris. « Eh, merci, mon digne ami, merci, » dit Coconas, qui tendit une troisième fois la main au bourreau. « Mon fils, dit le prêtre à Coconas, n'avez-vous rien à confier à Dieu ?»« Eh, ma foi non, mon père, » dit le piémontais. Puis se retournant vers Caboche, « Allons, bourreau, mon dernier ami, dit-il, encore un service. » Et avant de s'agenouiller, il promena sur la foule un regard si calme et si serein qu'un murmure d'admiration vint caresser son oreille et faire sourire son orgueil. Alors, pressant la tête de son ami et déposant un baiser sur ses lèvres violettes, il jeta un dernier regard sur la tourelle et, s'agenouillant tout en conservant cette tête bien aimée entre ses mains, « À moi, » dit-il. Il n'avait pas achevé ces mots que Caboche avait fait voler sa tête. Ce coup fait, un tremblement convulsif s'empara du digne homme. « Il était temps que cela finît, » murmura-t-il, « pauvre enfant. » et il tira avec peine des mains crispées de la môle le reliquaire d'or. Il jeta son manteau sur les tristes dépouilles que le tombereau devait ramener chez lui. Le spectacle était fini. La foule s'écoula. La nuit venait de descendre sur la ville frémissante encore du bruit de ce supplice. Cependant, tout au contraire de la ville qui était silencieuse et lugubre, le Louvre était bruyant, joyeux et illuminé. C'est qu'il y avait grande fête au palais, une fête commandée par Charles IX, une fête qu'il avait indiquée pour le soir en même temps qu'il indiquait le supplice pour le matin. La reine de Navarre avait reçu dès la veille au soir l'ordre de s'y trouver, et dans l'espérance que la môle et Coconas seraient sauvés dans la nuit, dans la conviction que toutes les mesures étaient bien prises pour leur salut, elle avait répondu à son frère qu'elle ferait selon ses désirs. Mais depuis qu'elle avait perdu tout espoir par la scène de la chapelle, depuis qu'elle avait, dans un dernier mouvement de pitié pour cet amour le plus grand et le plus profond qu'elle avait éprouvé de sa vie, assisté à l'exécution, elle s'était bien promis que ni prière ni menace ne la ferait assister à une fête joyeuse au Louvre le même jour où elle avait vu une fête si lugubre en grève. Le roi Charles IX avait donné ce jour-là une nouvelle preuve de cette puissance de volonté que personne peut-être ne poussa au même degré que lui. Alité depuis 15 jours, frêle comme un moribond, livide comme un cadavre, il se leva vers 5 heures et revêtit ses plus beaux habits. Il est vrai que pendant la toilette, il s'évanouit 3 fois. Vers 8 heures, il s'informa de ce qu'était devenue sa sœur et demanda si on l'avait vue, si l'on savait ce qu'elle faisait. Personne ne lui répondit, car la reine était rentrée chez elle vers les 11 heures et s'y était renfermée en défendant absolument sa porte. Mais il n'y avait pas de porte fermée pour Charles. Appuyé sur le bras de M. de Nançay, il s'achemina vers l'appartement de la reine de Navarre et entra tout à coup par la porte du corridor secret. Quoiqu'il s'attendît à un triste spectacle et qu'il y eût d'avance préparé son cœur, celui qu'il vit était plus déplorable encore que celui qu'il avait rêvé. Marguerite, à demi-morte, couchée sur une chaise longue, la tête ensevelie dans les coussins, ne pleurait pas, ne priait pas, mais depuis son retour, elle râlait comme une agonisante. À l'autre coin de la chambre, Henriette de Nevers, cette femme intrépide, gisait, sans connaissance, étendue sur le tapis. En revenant de la grève, comme à Marguerite, les forces lui avaient manqué, et la pauvre Gionne allait de l'une à l'autre, n'osant pas essayer de leur adresser une parole de consolation. Charles IX poussa donc la porte, et laissant Nançay dans le corridor, il entra, pâle et tremblant. Ni l'une ni l'autre des femmes ne l'avait vu. Gionne seule, qui, dans ce moment, portait secours à Henriette, se releva sur un genou et, tout effrayé, regarda le roi. Le roi fit un geste de la main, elle se releva, fit la révérence et sortit. Alors Charles se dirigea vers Marguerite, la regarda un instant en silence, puis avec une intonation dont on eût cru cette voix incapable. « Margot, dit-il, ma sœur !» La jeune femme tressaillit et se redressa. « Votre Majesté, dit-elle. « Allons, ma sœur, du courage !» Marguerite leva les yeux au ciel. « Oui, dit Charles, je sais bien, mais écoute-moi. » La reine de Navarre fit signe qu'elle l'écoutait. « Tu m'as promis de venir au bal, dit Charles. « Moi ? S'écria Marguerite. « Oui, et d'après ta promesse, on t'attend, de sorte que si tu ne venais pas, on serait étonné de ne pas t'y voir. « Excusez-moi, mon frère, dit Marguerite, vous le voyez bien, je suis souffrante. « Faites un effort sur vous-même. » Marguerite parut un instant tentée de rappeler son courage, puis tout à coup s'abandonnant et laissant retomber sa tête sur ses coussins. « Non, non, je n'irai pas, dit-elle. » Charles lui prit la main, s'assit sur la chaise longue et lui dit « Tu viens de perdre un ami, je le sais, Margot, mais regarde-moi, n'ai-je pas perdu tous mes amis, moi, et de plus, ma mère ? Toi, tu as toujours pu pleurer à l'aise comme tu pleures en ce moment. Moi, à l'heure de mes plus fortes douleurs, j'ai toujours été forcé de sourire. Tu souffres. Regarde, moi, je meurs. Eh bien, Margot, voyons, du courage. Je te le demande, ma sœur, au nom de notre gloire. Nous portons comme une croix d'angoisse la renommée de notre maison. Portons-la comme le Seigneur jusqu'au calvaire. Et si sur la route, comme lui, nous trébuchons, relevons-nous, courageux et résignés comme lui. » « Oh, mon Dieu !» s'écria Marguerite. « Oui, dit Charles, répondant à sa pensée. « Oui, le sacrifice est rude, ma sœur, mais chacun fait le sien, les uns dans le bonheur, les autres de leur vie. Crois-tu qu'avec mes 25 ans et le plus beau trône du monde, je ne regrette pas de mourir ? Eh bien, regarde-moi, mes yeux, mon teint, Mes lèvres sont d'un mourant, c'est vrai, mais mon sourire, et est-ce que mon sourire ne ferait pas croire que j'espère? Et cependant, dans 8 jours, 1 mois tout au plus, tu me pleureras, ma sœur, comme celui qui est mort aujourd'hui. Mon frère, s'écria Margot en jetant ses 2 bras autour du cou de Charles. Allons, habillez-vous, chère Marguerite, dit le roi, cachez votre pâleur et paraissez au bal. Je viens de donner l'ordre qu'on vous apporte des pierreries nouvelles et des ajustements dignes de votre beauté. Oh, des diamants, des robes, dit Marguerite, que m'importe tout cela maintenant? La vie est longue, Marguerite, dit en souriant Charles, pour toi du moins. Oh, jamais, jamais! Ma sœur, souviens-toi d'une chose, quelquefois c'est en étouffant, ou plutôt en dissimulant la souffrance, que l'on honore le mieux les morts. Eh bien, si, dit Marguerite frissonnante, j'irai. Une larme qui fut aussitôt bue par sa paupière aride mouilla l'œil de Charles. Il s'inclina vers sa sœur, la baisa au front, s'arrêta un instant devant Henriette qui ne l'avait ni vue ni entendue et dit « Pauvre femme !» Puis il sortit silencieusement. Derrière le roi, plusieurs pages entrèrent apportant des coffres et des écrins. Marguerite fit signe de la main qu'on déposa tout cela par terre. Les pages sortirent, Gionne resta seule. « Prépare-moi tout ce qu'il me faut pour m'habiller, Gionne, » dit Marguerite. La jeune fille regarda sa maîtresse d'un air étonné. « Oui, » dit Marguerite avec un accent dont il serait impossible de rendre l'amertume. « Oui, je m'habille, je vais au bal, on m'attend là-bas. Dépêche-toi donc, la journée aura été complète, faite à la grève ce matin, faite au Louvre ce soir. »« Et Madame la Duchesse, » dit Gionne, oh, elle, elle est bien heureuse, elle peut rester ici, elle peut pleurer, elle peut souffrir tout à son aise. Elle n'est pas fille de roi, femme de roi, sœur de roi, elle n'est pas reine. Aide-moi à m'habiller, Gionne. La jeune fille obéit, les parures étaient magnifiques, la robe splendide. Jamais Marguerite n'avait été si belle. En ce moment, Gionne revint. « Madame, dit-elle, un homme est là qui vous demande. »« Quel est cet homme ?» Je ne sais, mais son aspect est terrible et sa seule vue m'a fait frissonner. Va lui demander son nom, dit Marguerite en pâlissant. Gionne sortit et quelques instants après, elle rentra. Il n'a pas voulu me dire son nom, madame, mais il m'a prié de vous remettre ceci. Gionne tendit à Marguerite le reliquaire qu'elle avait donné la veille au soir à la Mole. Oh, fais entrer, dit vivement la reine, et elle devint plus pâle et plus glacée encore qu'elle n'était. Un palourd ébranla le parquet. L'écho, indigné sans doute de répéter pareil bruit, gronda sous le lambris et un homme parut sur le seuil. « Vous êtes, dit la reine, celui que vous rencontrâtes un jour près de Montfaucon, madame, et qui ramena au Louvre, dans son tombereau, 2 gentilshommes blessés. Ah oui, oui, je vous reconnais, vous êtes maître Caboche, bourreau de la prévôté de Paris, madame. » C'étaient les 2 seuls mots qu'Henriette avait entendus de tous ceux que depuis 1 heure on prononçait autour d'elle. Elle dégagea sa tête pâle de ses 2 mains et regarda le bourreau avec ses yeux d'émeraude, d'où semblait sortir un double jet de flamme. « Et vous venez, dit Marguerite tremblante, vous rappelez la promesse faite au plus jeune des 2 gentilshommes, à celui qui m'a chargé de vous remettre ce reliquaire. Vous la rappelez-vous, madame ?»« Ah oui, oui !» s'écria la reine, « jamais ombre plus généreuse n'aura plus noble satisfaction. Mais où est-elle »« Elle est chez moi, avec le corps. »« Chez vous ? Pourquoi ne l'avez-vous pas apportée ?» Je pouvais être arrêté au guichet du Louvre. On pouvait me forcer à lever mon manteau. Qu'aurait-on dit si, sous ce manteau, on avait vu une tête? C'est bien, gardez-la chez vous. J'irai la chercher demain. Demain, madame, demain, il sera peut-être trop tard. Et pourquoi cela? Parce que la reine-mère m'a fait retenir pour ses expériences cabalistiques les têtes des 2 premiers condamnés que je décapiterai. « Oh, profanation, les têtes de nos bien-aimés Henriette !» s'écria Marguerite en courant à son amie qu'elle retrouva debout, comme si un ressort venait de la remettre sur pied. « Henriette, mon ange, entends-tu ce qu'il dit, cet homme ?»« Oui, eh bien, que faut-il faire ? Il faut aller avec lui. » Puis, poussant un cri de douleur avec lequel les grandes infortunes se reprennent à la vie, « Ah, j'étais cependant si bien, dit-elle, j'étais presque morte. » Pendant ce temps, Marguerite jetait sur ses épaules un manteau de velours. « Viens, viens, dit-elle, nous allons les revoir encore une fois. » Marguerite fit fermer toutes les portes, ordonna que l'on amena la litière à la petite porte dérobée, puis, prenant Henriette sous le bras, descendit par le passage secret, faisant signe à Caboche de les suivre. À la porte d'en bas était la litière, au guichet était le valet de caboche avec une lanterne. La litière marcha pendant 10 minutes à peu près, précédée de maître caboche et de son valet portant la lanterne, puis elle s'arrêta. Marguerite descendit, aida la duchesse de Nevers à descendre. Dans cette grande douleur qui les étreignait toutes deux, c'était cette organisation nerveuse qui se trouvait être la plus forte. La tour du pilori se dressait devant les deux femmes comme un géant sombre et informe, envoyant une lumière rougeâtre par deux sarbacanes qui flamboyaient à son sommet. « Vous pouvez entrer, mesdames, » dit Caboche, « tout le monde est couché dans la tour. » Au même moment, la lumière des deux meurtrières s'éteignit. Les deux femmes, serrées l'une contre l'autre, passèrent sous la petite porte en ogive et foulèrent dans l'ombre une dalle humide et raboteuse. Elles aperçurent une lumière au fond d'un corridor tournant et, guidées par le maître hideux du logis, elles se dirigèrent de ce côté. La porte se referma sur elles. Caboche, un flambeau de cire à la main, les introduisit dans une salle basse et enfumée. Au milieu de cette salle était une table dressée avec les restes d'un souper et trois couverts. Ces trois couverts étaient sans doute pour le bourreau, sa femme et son aide principale. Dans l'endroit le plus apparent était cloué à la muraille un parchemin scellé du sceau du roi, c'était le brevet patibulaire. Dans un coin était une grande épée à poignée longue, c'était l'épée flamboyante de la justice. Ça et là, on voyait encore quelques images grossières représentant des saints martyrisés par tous les supplices. Arrivé là, Caboche s'inclina profondément. « Votre Majesté m'excusera, dit-il, si j'ai osé pénétrer dans le Louvre et vous amener ici, mais c'était la volonté expresse et suprême du gentilhomme, de sorte que j'ai dû... »« Ah, vous avez bien fait, maître, vous avez bien fait, » dit Marguerite, « et voici pour récompenser votre zèle. » Caboche regarda tristement la bourse gonflée d'or que Marguerite venait de déposer sur la table. « Maître, » dit Marguerite avec une hésitation douloureuse et en regardant autour d'elle, « Maître, nous faudrait-il encore aller ailleurs? Je ne vois pas... »« Non, madame, non, elles sont ici, mais c'est un triste spectacle et que je pourrais vous épargner en vous apportant caché dans un manteau ce que vous venez chercher. » Marguerite et Henriette se regardèrent simultanément. « Non, » dit Marguerite, qui avait lu dans le regard de son amie la même résolution qu'elle venait de prendre. « Non, montrez-nous le chemin, nous vous suivrons. » Caboche prit le flambeau, ouvrit une porte de chêne qui donnait dans un escalier de quelques marches et qui s'enfonçait en plongeant sous la terre. Henriette s'appuya, blanche comme une statue d'albâtre, sur le bras de son amie, à la marche la plus assurée, mais au premier degré, elle chancela. « Oh, je ne pourrai jamais, » dit-elle. « Quand on aime bien Henriette, » reprit la reine, « on doit aimer jusque dans la mort. » C'était un spectacle horrible et touchant à la fois que celui que représentaient les deux femmes resplendissantes de jeunesse, de beauté, de parure, se courbant sous la voûte ignoble et crayeuse, la plus faible s'appuyant à la plus forte et la plus forte s'appuyant au bras du bourreau. On arriva à la dernière marche. Au fond du caveau gisaient deux formes humaines recouvertes par un large drap de serge noire. Caboche leva un coin du voile, approcha son flambeau et dit « Regardez, madame la reine !» Dans leurs habits noirs, les deux jeunes gens étaient couchés côte à côte avec l'effrayante symétrie de la mort. Leur tête, inclinée et rapprochée du tronc, semblait séparée seulement au milieu du cou par un cercle de rouge vif. La mort n'avait pas désuni leurs mains. Il y avait un regard d'amour sous les paupières de la mole, il y avait un sourire de dédain sous celle de Coconas. Marguerite s'agenouilla près de son amant et de ses mains éblouissantes de pierreries leva doucement cette tête qu'elle avait tant aimée. Quant à la duchesse de Nevers, appuyée à la muraille, elle ne pouvait détacher son regard de ce pâle visage sur lequel tant de fois elle avait cherché la joie et l'amour. « La Mole, chère La Mole !» murmura Marguerite. « Hannibal, Hannibal !» cria la duchesse de Nevers, « si beau, si fier, si brave, tu ne me réponds plus !» Et un torrent de larmes s'échappa de ses yeux. Marguerite enferma dans un sac brodé de perles et parfumé des plus fines essences la tête de la mole, plus belle encore puisqu'elle se rapprochait du velours et de l'or, et à laquelle une préparation particulière employée à cette époque dans les embaumements royaux devait conserver sa beauté. Henriette s'approcha à son tour, enveloppant la tête de Coconas dans un pan de son manteau. Et toutes deux, courbées sous la douleur plus que sous le fardeau, montèrent l'escalier avec un dernier regard pour les restes qu'elles laissaient à la merci du bourreau dans ce sombre réduit des criminels vulgaires. Ne craignez rien, madame, dit Caboche, qui comprit ce regard. Les gentilshommes seront ensevelis, enterrés saintement, je vous le jure. Et tu leur feras dire des messes avec ceci, dit Henriette, arrachant de son cou un magnifique collier de rubis et le présentant au bourreau. On revint au Louvre comme on était sorti. Au guichet, la reine se fit reconnaître. Au bas de son escalier particulier, elle descendit, rentra chez elle, déposa la triste relique dans le cabinet de sa chambre à coucher, destinée dès ce moment à devenir un oratoire. Laissa Henriette en garde de sa chambre et, plus pâle et plus belle que jamais, entra vers 10 heures dans la grande salle de bal, le même où nous avons vu, il y a tantôt 2 ans et demi, s'ouvrir le premier chapitre de notre histoire. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et elle supporta ce regard universel d'un air fier et presque joyeux. C'est qu'elle avait religieusement accompli le dernier vœu de son ami. Charles, en l'apercevant, traversa, chancelant, le flot doré qui l'entourait. « Ma sœur, dit-il tout haut, je vous remercie. » Puis, tout bas, « Prenez garde, dit-il, vous avez au bras une tache de sang. »« Hein, qu'importe, sire, dit Marguerite. » Pourvu que j'aie le sourire sur les lèvres.